Bonsoir. L'élection a lieu en ce moment à Zurich, mais déjà Sepp Blatter aura été fidèle à sa légende. Le patron de la FIFA a triomphé aujourd'hui devant les délégués de la Fédération internationale de football qui se sont succédés pour lui rendre hommage et fustiger l'Angleterre, coupable du crime de lèse-majesté, celui d'avoir remis en cause le fonctionnement de la FIFA. Nous appellerons Pascal Turner qui suit cette élection en ce moment à Zurich et le sociologue très critique envers le système Blatter, Patrick Vassor. Le climat politique se dégrade encore un peu en France. L'affaire DSK délie les langues. Et voilà l'ancien ministre Luc Ferry qui évoque une affaire de pédophilie qui concernerait un ancien ministre. Certains sites internet donnent le nom de Jack Lang, le site Arrêt sur Image notamment. La récupération politique bat son plein. On recevra le directeur du site d'information Arrêt sur Image, Daniel Schneiderman, dans ce début de forum. Y a-t-il trop de clubs romands en Super League de football? On osera la question, lendemain de la promotion du Servette FC, qui rejoint Sion, Xamax et Lausanne, une surreprésentation des romands qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, en Suisse alémanique en particulier, qui pourrait aussi poser quelques problèmes de masse critique aux Suisses romandes. On en débat avec un journaliste alémanique, rédacteur oblique, Alain Kunz, et notre confrère Jacques Ducret, ce sera à 18h30. La Suisse au-delà du paysage, c'est le titre d'un ouvrage historique qui doit expliquer la Suisse aux Français notamment. L'historien François Walter signe un livre édité aux éditions Gallimard Découverte. Il nous le présente en direct et puis il répond à un lecteur plutôt sceptique. Jean-Michel Olivier, lui, n'a pas complètement aimé ce livre. Il formule quelques critiques. La Suisse au-delà du paysage, un débat, et c'est à 18h45. Micheline Calmiret a fini par accepter l'invitation de l'émission La Soupe le 26 juin prochain. La nouvelle agite le Palais fédéral. On se souvient que le dernier passage à La Soupe d'un certain Pascal Couchepin avait été l'occasion pour lui de faire ses adieux, en quelque sorte. Du coup, les spéculations reprennent sur l'avenir de Micheline Calmiret. Préparerait-elle ainsi son départ? Vincent Bourquin examine l'hypothèse avec nous à 18h15. À Genève, on s'intéressera à un problème qui a comme un goût de deuxième affaire Skandervogt, un prisonnier depuis 3 ans dans la prison préventive de Chandelon. Il semble atteint mentalement, sans perspective de sortie. Pour ne rien simplifier, l'affaire est aussi politique. C'est un ancien dissident du régime d'Hosni Moubarak en Égypte. Une manifestation a eu lieu en son soutien. On tente d'y voir plus clair avec Denise Graff d'Amnesty International dans quelques minutes. Yvan Perrin a quelques problèmes professionnels suite à des propos tenus dans notre émission sur la torture il y a quelques jours. Le conseiller national UDC, qui est aussi policier neuchâtelois, justifiait la torture dans certains cas. Une élue neuchâteloise s'en est émue, elle a interpellé le Conseil d'État. Il se penche sur la question en ce moment. Le récit d'Agnès Schenker dans quelques instants. Le temps sera plutôt ensoleillé demain. Les températures atteindront 20 à 22 degrés. Elles augmentent encore vendredi, 26 degrés en Valais. La météo de Stéphanie Koller, c'est à la fin de ce forum.
Forum, Tatiana Odo, Philippe Reva.
Et Sepp Blatter devrait être réélu à la tête de la Fédération internationale de football. Le Haut-Valaisan doit être reconduit pour un 4e mandat par le congrès de la FIFA à Zurich. Mais la surprise, Pascal Turner, c'est que même en étant le seul candidat, eh bien, il n'y a pas eu de vote par acclamation.
Oui, c'est Sepp Blatter lui-même qui a demandé le vote à bulletin secret, alors qu'en tant que candidat unique, eh bien, on s'attendait à ce qu'il accepte un vote par acclamation. En fait, c'est sa réponse au président de la Fédération anglaise de football, David Bernstein, qui a demandé ce matin que l'élection du président soit reportée à une date ultérieure, car selon lui, dans le contexte actuel et ce climat délétère, eh bien, une élection avec un seul candidat ne donnerait pas au président la légitimité nécessaire pour employer les réformes indispensables. Et à l'instant même, le scrutin vient de s'achever, le résultat est tombé. Sepp Blatter est réélu par 186 voix sur 203. Et la salle se lève en ce moment pour acclamer Sepp Blatter, donc triomphalement réélu. Mais il faut dire que Sepp Blatter aujourd'hui a très bien manœuvré. Il a promis que le mode de désignation des pays organisateurs des prochaines Coupes du Monde serait modifié. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les 24 membres du comité exécutif qui exercent cette prérogative très recherchée. Sepp Blatter a promis ce matin de l'offrir aux 208 membres du Congrès, une promesse très applaudie. Et ce sont justement ces membres du Congrès qui viennent de voter pour réélire Sepp Blatter.
Alors, il y a aussi de nombreuses voix qui ont appelé la FIFA à se réformer. Comment Sepp Blatter y a répondu ?
Alors il a promis aujourd'hui de renforcer les organes de contrôle interne de la FIFA, comme la commission éthique, qui promet-il sera professionnalisée. Mais il a promis aussi de créer une commission d'enquête interne sur les dernières accusations de corruption qui touchent deux membres du comité exécutif, le Qatari Mohamed bin Hammam et le vice-président Jack Warner. Et il faut dire que pour la Suisse, des réformes sont importantes, voire urgentes. Micheline Calmeret l'a rappelé hier, hein, puisqu'elle était l'invitée de la journée d'introduction, parce qu'à travers la réputation de la FIFA, c'est quand même l'image de la Suisse qui est touchée. La Confédération est en train de trouver des solutions aux questions d'évasion fiscale. Ce n'est pas le moment de donner l'impression d'abriter des adeptes de l'opacité financière.
Oui, Pascal Turner, en direct de Zurich.
Et puis un homme n'est pas étonné du tout par ce triomphe, cette réélection annoncée, c'est le sociologue Patrick Vassor. Il est maître de conférence à l'université de Caen, très critique envers le système des fédérations sportives. Cette réélection de Sepp Blatter, il l'explique assez simplement.
Sepp Blatter a l'habitude de triompher, ce sont souvent des triomphes qui apparaissent faciles, mais qui ne le sont pas tant que ça, grosso modo, suite à des affaires qui, dans les couloirs de la FIFA, se succèdent et qui laissent évidemment présager d'une institution qui ne fonctionne absolument pas démocratiquement. Donc Sepp Blatter est au pouvoir, il utilise ce pouvoir pour pouvoir se faire réélire dans des conditions qui sont rarement honnêtes.
On a un peu l'impression, Patrick Vassor, qu'il est seul au milieu des décombres. C'est ça aussi une manœuvre, c'est une stratégie, ça, de poser en recours?
Bah, les décombres, en même temps, c'est lui qui les organise. Alors, effectivement, il apparaît comme le recours, mais c'est un fait que depuis que l'on s'intéresse un tout petit peu à cette fédération internationale, on s'aperçoit que les dons, les contre-dons, les échanges plus ou moins illicites sont organisés par les présidents. Aujourd'hui, Blatter, c'était Samaranch il y a
non, ça, on n'a pas de preuves.
Pas Samaranch, Joao Avlange, pas de preuves. Oh, si, quand même. Je crois notamment que les ouvrages du journaliste anglais Andrew Jennings montrent clairement ce qu'il en est. Et de plus, moi-même, j'avais fait il y a quelques années un article dans Le Monde diplomatique démontrant tout cela. Je vous assure que je n'ai jamais eu la moindre plainte ni la moindre poursuite à ce sujet.
Patrick Vassor, on a l'impression que c'est un peu la menace qui plane toujours sur ces grandes organisations sportives, le CIO aussi. Et puis là, Blatter annonce un nouveau moyen pour éviter la corruption, le choix des villes qui organiseront les championnats du monde, la Coupe du Monde, sera pris par toute l'Assemblée et non plus seulement un comité. Ça, c'est une garantie?
Non, absolument pas. De toute façon, modifier la méthode de désignation des villes, ça permettra simplement de modifier les manières de contourner les systèmes démocratiques. Donc,
vous avez certaine admiration quand même pour lui, à voir ce qu'il a fait aujourd'hui. Je sais pas admiration, mais en tout cas, au niveau de la manœuvre, c'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire. C'est Blatter, tout le monde, cette espèce d'union sacrée autour de lui.
Oui, il y a une union sacrée, mais je crois qu'il tient tout le monde Il tient tout le monde parce que tout le monde a été mouillé dans ce qu'il a fait. Et souvenez-vous qu'en 98, déjà son élection avait été entachée de corruption et que le directeur général de la Fédération internationale de l'époque avait voulu s'opposer à son élection et que malheureusement il a été viré. Donc élection après élection, Sepp Blatter effectivement tient tout le monde parce qu'il est susceptible de faire des révélations sur tout le monde.
Sociologue Patrick Vassor, maître de conférence à l'université de Caen.
En France, des accusations de pédophilie contre un ancien ministre suscitent de vives réactions. S'exprimant lundi soir sur Canal+, Luc Ferry, lui-même ancien ministre, a confirmé le récit publié samedi dernier dans le Figaro magazine. L'histoire d'un ex-ministre arrêté il y a quelques années à Marrakech, pris en flagrant délit d'orgie pédophile. Ni le magazine, ni Luc Ferry n'ont voulu révéler le nom de l'ancien ministre. Le site Arrêt sur Image l'a fait. Il s'agirait de Jack Lang, Mehmet Gültaş.
Oui, en fait, la rumeur est ancienne. En 2004 déjà, deux journalistes, Guy Charbonneau et Laurent Guimier, avaient enquêté sur cette affaire de mœurs, parvenant à la conclusion, je cite, qu'il n'y avait pas le début du commencement d'une preuve qui soit solide. Et pourtant, dans son dossier consacré au silence des politiques et des journalistes sur la vie privée des hommes de pouvoir, le Figaro magazine revient sur cette rumeur en donnant des détails. On y lit que des policiers de Marrakech avaient, il y a quelques années, effectué une descente nocturne dans une villa où, je cite, une fête bien spéciale bat son plein. Les participants, des Français, sont surpris alors qu'ils s'amusent, entre guillemets, avec de jeunes garçons. Parmi les adultes arrêtés, un ancien ministre français qui sera libéré sur le champ après l'intervention du consul de France à Marrakech et de l'ambassade française à Rabat. L'ex-ministre rentrera ensuite en France sans jamais y être inquiété. Le magazine se garde bien de révéler le nom de la personnalité concernée. Faute d'éléments de procédure ou de témoignage, la loi nous interdit légitimement de nommer le personnage, se défend l'hebdomadaire. Lundi soir, dans le grand journal de Canal+, Luc Ferry confirme ce récit tout en s'abstenant lui aussi de révéler le nom de l'ex-ministre. On l'écoute.
Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait boisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit.
Très sincèrement, pas.
Ben moi je le sais. Et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par.
Ah, il est peut-être mauvaise langue, non ?
Pas du tout, au contraire.
Vous avez des preuves ou pas ?
Non, mais moi, évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. J'ai des témoignages, un des membres du cabinet et au plus haut niveau, et puis des autorités de l'État au plus haut niveau. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serai mis en examen. Je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie.
Ouais, des propos qui ont provoqué de vives réactions.
Oui, et surtout à droite, à commencer par le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, qui a déclaré « Si on a la conviction qu'il y a eu un délit, voire un crime, eh bien on saisit la justice et on ne va pas simplement bavasser dans la presse ». De son côté, l'ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati, a indiqué que si les faits étaient avérés, eh bien Luc Ferry s'exposait au délit de non-dénonciation de crime. Sur le site internet de l'hebdomadaire L'Express, Luc Ferry se défend d'avoir voulu jouer les délateurs. « J'ai souhaité défendre la presse qui respectait la vie privée et qui ne se rendait pas coupable de diffamation », dit-il. Je n'ai aucune preuve ni aucun fait précis sur cette affaire, mais à l'époque où j'étais ministre, j'en ai entendu parler. Quant à Jack Lang, actuellement à l'étranger, il va étudier avec son avocat la possibilité de porter plainte en cas de diffamation. Et l'ancien ministre de la Culture d'ajouter au sujet de cette rumeur, j'en ai souffert par le passé, mais aujourd'hui, je suis totalement serein.
Mabette Gultas en direct de Paris.
Merci. Et avec nous, Daniel Schneiderman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur du site Arrêt sur Image. Daniel Schneiderman, vous avez, dans un article mis en ligne sur ces accusations de Luc Ferry, évoqué le nom de Jack Lang en faisant référence à l'origine de cette rumeur. C'était un article de L'Express en 2005. D'abord, sur ce nom, Jack Lang qui est sorti, c'est juste, c'est pas juste? On nage en manipulation, on en est où exactement?
Mais je vais vous décevoir, on n'a pas révélé le nom de Jack Lang. On a essayé de, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, on a essayé de retracer la rumeur concernant des faits de pédophilie qui courent sur Jack Lang depuis des années et des années. C'est ce qu'on fait dans un article qui est publié cet après-midi sur le site, sur arretsurimage.net. On essaye de voir d'où ça vient, c'est-à-dire on essaye de voir quels sont les médias par lesquels cette rumeur est passée, cette rumeur qui aboutit aujourd'hui, effectivement, à ce que on pense à Jack Lang quand on entend Ferry dénoncer des faits de pédophilie au Maroc. Mais voilà,
le nom est cité, enfin que ce soit votre site ou d'ailleurs, ça circule. On voit un peu l'état du débat politique en France. On a l'impression qu'on nage en pleine folie après cette affaire DSK.
Alors juste, oui, vous avez raison, on nage en pleine folie. Juste pour finir avec ça, dans notre papier de cet après-midi, là qu'on a mis en ligne il y a 2 heures, on fait parler Jean-François Kahn, qui était sur le plateau à côté de Luc Ferry, et qui nous dit que Ferry lui a dit avant l'émission du Grand Journal qu'il ne pensait pas à Jack Lang. Voilà, donc on dédouane Jack Lang de cette histoire. Alors maintenant, plus largement, c'est vrai qu'on est dans une période de folie. En France, là, depuis 15 jours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pendant des années et des années, la politique des médias français a consisté à ne pas aborder, sous aucun prétexte, les détails de la vie privée des responsables politiques. On se souvient de l'affaire Mazarine, la fille naturelle de Mitterrand, dont l'existence a été révélée à la fin du deuxième septennat de Mitterrand. On se souvient de la rupture des couples Sarkozy et Royal Hollande pendant la présidentielle de 2007, qui n'avait absolument pas été abordée par les journalistes de l'époque. Il y avait une omerta, et comme toujours, quand sur un sujet il y a une omerta qui est véritablement exagérée, c'est-à-dire que les journalistes se retiennent de publier ce qu'ils savent, comme toujours, à un moment ça explose, et ça part dans tous les sens, et ça part n'importe comment.
Avec Internet en plus, Daniel Schneiderman, aujourd'hui,
en
2011.
Là, franchement, non, alors là, franchement, vous savez, là, si vous regardez bien comment ça se passe depuis, depuis l'affaire DSK, c'est pas sur Internet que ça se passe, c'est vraiment dans les médias traditionnels que ça se passe. Je sais bien qu'il est confortable de dire que ces irresponsables d'Internet sont responsables de tout ce qui arrive, mais en l'occurrence, c'est faux.
Mais le nom de Jack Lang, par exemple, il sort sur Internet aujourd'hui.
Mais pas du tout. Attendez, je vais répéter, je suis désolé d'être obligé de répéter ce que je vous ai dit. Le nom de Jack Lang était sorti dans un article de l'Express.
En 2005.
Le papier de l'Express, en 2005, qu'on peut retrouver effectivement dans les archives de l'Express, de l'Express papier. Lesquelles archives sont sur Internet? Il n'est pas sorti sur Internet.
Il n'est pas sorti sur Internet, mais ce que je veux dire par là...
Je sais que vous, les Suisses, aimez bien la précision, donc excusez-moi.
On adore ça.
C'est un peu mon péché mignon aussi.
Mais Daniel Schneiderman, aujourd'hui, on voit aucun article qui sort aujourd'hui papier en citant Jack Lang. On voit bien qu'il y a plusieurs articles sur Internet qui parlent de Jack Lang, qui sortent le nom.
Qui relance cette histoire de Maroc ce week-end? C'est le Figaro Magazine, dans un article du papier. Qui va plus loin en disant « j'en ai entendu parler par les plus hautes autorités de l'État ». C'est Luc Ferry sur un plateau de Canal+, une chaîne de télévision qui n'est pas sur Internet. Je suis désolé de vous contredire, Internet n'est pas pour grand-chose.
En même temps, Daniel Schneiderman, j'ai sous les yeux un article. C'est l'article de sur votre site Internet. Hein. Vous dites « l'origine des rumeurs sans preuve qui visent Lang depuis les années 70 ». Alors, en même temps, vous faites un article pour dire « l'origine des rumeurs sans preuve », mais le nom sort quand même en le disant.
Le nom était sorti dans l'Express. Si vous voulez,
en 2005.
En 2005. Mais oui.
Ça fait longtemps.
C'était sorti. Mais attendez, c'était sorti.
Oui,
c'était publié.
Il y a 6 ans.
Ça existe, les archives. Et je suis désolé, une fois que ça a été publié, c'est dans le domaine public. De la même manière que Lang s'en était expliqué de ses rumeurs dans un livre, dont on cite également des extraits dans notre article. Je crois que on est dans une nouvelle période. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas du tout si c'est une période durable, c'est-à-dire si les bouches qui se sont ouvertes, parce que là on est sur Lang, on est sur un épiphénomène, mais ça va bien au-delà. Si vous observez ce qui se passe en France depuis quelques jours maintenant, on voit se succéder les révélations notamment de journalistes politiques femmes qui racontent comment elles ont été draguées, harcelées.
Mais est-ce que c'est vrai ça, Daniel Schneiderman, par exemple, ce qu'on entend sur le plateau de télévision française, tout le monde sait de qui il s'agit, même Jean-François Kahn le dit, mais personne ne le dit. C'est vrai que tout le monde sait de qui il s'agit exactement quand on parle de ces turpitudes de politique?
Moi, ce que je sais, je le dis. Voilà. Alors, le tout le monde sait, si vous voulez, il faut se méfier du tout le monde sait, parce que le tout le monde sait, je ne sais pas qui est tout le monde. Je sais que le tout le monde sait est souvent une réponse des journalistes politiques quand on leur demande « Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Pourquoi vous n'avez pas abordé cette question ?»« Ah, parce que tout le monde le savait. » Non, tout le monde ne le savait pas. Le public ne le sait pas. Et après, si vous voulez, c'est pas parce que le public ne le sait pas qu'il faut obligatoirement le dire. Je pense que dans cette période, qui est encore une fois une période totalement opposée à la période qu'on a vécue auparavant, où on disait rien, et qui est une période maintenant où on dit tout et n'importe quoi, je pense que dans cette période, le rôle des journalistes, c'est de faire le tri de faire le tri dans tous les noms qui se bousculent et d'essayer de vérifier ce qui peut l'être et de publier ce qui est vérifié. Le boulot des journalistes, si vous voulez, il change d'axe, puisque là, il s'agit plus comme avant de révéler le peu qu'on savait. Il s'agit de faire le tri dans la profusion de ce qui sort partout, ce qu'on essaye de faire sur le site.
En tout cas, drôle de climat politique en France ces jours-ci qu'on observe avec attention de côté-ci de la frontière. Je vous remercie d'être venu quelques instants avec nous, Daniel Schneiderman. Vous êtes le fondateur du site Arrêt sur Image.
Point net,
voilà, c'est important.
Bien à vos auditeurs qui vont se précipiter sur Internet.
Parce que .fr, non ?
.fr, non, on n'a pas le nom de domaine, c'est .net.
Alors .net, c'est noté. Merci beaucoup, Daniel Schneiderman.
Je vous en prie.
Au revoir.
La droite bernoise part divisée pour les élections fédérales d'automne. Le parti bourgeois démocratique bernois a choisi de partir seul. Il était question d'un apparentement à droite avec les libéraux radicaux et l'UDC, mais le PBDI renonce. D'abord pour des questions de clarté envers l'électeur et puis aussi en raison des attaques portées par le candidat libéral radical Christian Wasserfallen à l'encontre de ses deux sortants au Conseil des États. Micheline Calmiret participera à la dernière soupe de la saison. Ce sera le dimanche 26 juin en direct du Kultur Casino de Berne. Sollicitée depuis de nombreuses années par les humoristes, la conseillère fédérale avait toujours refusé de participer à cette émission de la radio suisse romande, affirmant qu'elle n'avait aucun sens de l'humour. Sa participation relance à nouveau les spéculations sur son avenir politique, Vincent Bourquin.
Oui, vous le savez, au Palais fédéral, les moindres gestes des conseillers fédéraux sont observés et interprétés. Et c'est le cas cette fois-ci aussi avec la décision de Micheline Calmiret de participer à la soupe. Alors, va-t-elle suivre les traces de Pascal Couchepin? On s'en souvient, il y a 2 ans, le conseiller fédéral valaisan avait donné son accord pour être l'invité de cette émission. Et puis, dans la semaine qui avait précédé ce rendez-vous, il avait démissionné.
Est-ce que ça veut dire que Micheline Calmiret pourrait, elle aussi, bientôt démissionner?
Alors ici, sous la coupole fédérale, personne ne croit réellement qu'elle partira avant la fin de sa présidence et donc il y aurait une élection partielle en septembre. Par contre, au sein du Parti Socialiste, plusieurs élus souhaiteraient qu'elle annonce d'ici cet été son retrait pour la fin de l'année.
Et pourquoi certains rêvent d'un tel scénario ?
Tout simplement pour occuper le terrain médiatique avant les élections fédérales d'octobre. Toutes les sections latines du PS présenteraient alors un candidat, ce qui permettrait de tirer les listes. Alors les Valaisans pourraient lancer Stéphane Rossini, les Genevois Carlos Omaruga, les Neuchâtelois Jean Studer, les Jurassiens Claude Esch ou Elisabeth Baumschneider, les Tessinois Marina Carobbio, sans oublier bien sûr les 2 grands favoris, Alain Berset et Pierre-Yves Maillard.
Un scénario qui en rappelle un autre.
Et on reparle encore une fois de Pascal Couchepin. C'était il y a presque 2 ans. Des dizaines et des dizaines de candidats étaient sortis du bois durant l'été dans le but justement de mettre en avant les libéraux radicaux romands. Et finalement, vous le savez, c'était Didier Burkhalter qui avait été élu.
Mais la plupart des observateurs estiment que Micheline Calmiret va plutôt attendre les élections fédérales avant de rendre publique sa décision.
Cela permettrait aussi au PS d'affiner sa stratégie en cas de très mauvais résultats aux élections fédérales et puis de la représenter si tout à coup l'un des 2 sièges socialistes était vraiment menacé. Mais tout de même, le scénario qui a les faveurs de la cote ici à Berne, c'est que Micheline Calmiret annoncera son départ en novembre pour la fin de l'année.
Et pourrait-elle aussi se représenter lors des élections au Conseil fédéral en décembre ?
Bien sûr, il ne faut pas oublier ce scénario. Micheline Calmiret aimerait bien rempiler, mais après sa très mauvaise élection à la présidence, elle ne prendra pas le risque d'être éjectée. Donc si elle se représente, c'est avec des garanties des autres partis. Et aujourd'hui, à droite, personne n'est prêt à les lui donner.
Vincent Bourquin, direct de Berne.
Et à Berne, toujours une armée de 100 000 soldats pour un budget indéterminé. C'est celle dont rêve le Conseil des États, un modèle qui ne doit pas déplaire non plus au ministre de la Défense, William Maurer, même s'il a dû défendre aujourd'hui la position du Conseil fédéral qui voulait limiter l'armée à 80 000 hommes. Le Conseil des États a aussi pressé le gouvernement de présenter rapidement un concept de financement pour de nouveaux avions de combat, très rapidement. Avec nous, Jean-René Fournier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller aux États valaisans, démocrate chrétien. Alors 100 000 hommes, budget non défini. On croyait que le Conseil des États en général était plutôt faisait attention avec les deniers publics. Là, vous ouvrez grande les vannes des finances.
Ah non, justement pas. Je crois qu'il faut pas mal interpréter cette non-budget qui est donné finalement, ce non-budget qui est donné finalement au département militaire pour la simple et bonne raison que au début la Commission avait mis un chiffre, n'est-ce pas, pour cette armée de 100 000 hommes, un chiffre de 5,1 milliards. Et finalement, nous avons renoncé à mettre un chiffre tout simplement parce qu'il y a une étude actuellement en cours au sein du département qui doit nous démontrer encore où sont possibles des économies dans ce département.
Oui, mais j'en ai fourni 100 000 soldats alors que le gouvernement voulait 80 000, donc c'est 20 000 de plus, c'est forcément plus d'argent aussi.
C'est certainement plus d'argent aussi. Le tout, c'est de savoir est-ce qu'on veut continuer de distribuer à l'armée ou de donner à l'armée des missions toujours plus compliquées et toujours plus onéreuses et lui diminuer le budget, ce qui rend finalement notre institution militaire plus crédible et aussi plus respectée à l'étranger.
Mais j'en ai fourni. Tout le monde cherche au débat ou réfléchit à un ennemi possible pour l'armée suisse. Vous l'avez trouvé pour qu'elle ait besoin de 100 000 hommes. C'est qui l'ennemi ?
Alors l'ennemi, il n'y a pas de menace imminente, comme vous le savez certainement, mais les cantons ont souvent besoin du secours de l'armée, et puis c'est pas parce que la menace imminente n'est pas existante aujourd'hui que l'on ne doit pas faire en sorte que l'armée reste une armée crédible pour l'avenir.
J'en ai fourni, si on considère que les finances ne sont pas extensibles, vous préférez 100 000 hommes pas moins bien armés plutôt que 80 000 qui soient très bien équipés?
Pas du tout, puisque l'exigence justement de la commission de sécurité, c'est d'avoir une armée de 100 000 hommes au lieu d'avoir 180 000 comme maintenant, mais d'avoir une armée de 100 000 hommes bien équipée et bien entraînée. Je rappellerai tout simplement que si vous allez sur Google, et j'encourage d'ailleurs nos auditeurs à aller sur Google et de taper dépenses militaires au prorata ou en pourcentage du produit intérieur brut, vous verrez que la Suisse, de tous les pays européens et parmi les pays au monde, est le pays qui dépense le moins pour sa défense nationale, alors qu'un pays neutre, normalement, devrait payer plus cher à sa défense nationale, puisque ne faisant pas partie d'une alliance, il doit à lui tout seul assurer la sécurité militaire.
Mais quand même entouré de pays amis et plus ou moins stable.
On est entouré de pays amis et plus ou moins stable, mais si vous comparez par exemple au budget de l'Autriche ou de la Norvège qui sont des pays neutres, notre budget suisse est largement en dessous. D'ailleurs, les deux seuls pays qui sont derrière la Suisse dans cette liste, c'est un pays en ruine, Haïti, et l'autre pays ruiné, l'Islande. Alors, vous voyez à peu près où on se trouve le budget militaire de notre pays.
Tout ce que Google peut nous amener en ces temps politiques, j'en ai fourni. Qui eût cru vous n'avez pas peur si on doit couper quelque part pour mettre un peu plus d'argent dans l'armée? Le Valais souvent réclame, région périphérique, un peu d'argent, de subventions, faudra couper ailleurs.
C'est absolument pas l'objectif, puisque nous avons chargé le Conseil fédéral aujourd'hui également de présenter d'ici la fin de l'année un concept de financement et pour l'acquisition des nouveaux avions et pour le financement de l'armée pour 2020, parce que je rappelle que c'est une armée, le concept est discuté maintenant, mais cette armée sera vraiment sur pied et opérationnelle seulement en 2020.
J'en ai fourni, conseiller aux États démocrates chrétiens. Valaisan, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Infotrafic RSR.
Un important bouchon s'est formé sur le contournement de Lausanne entre Écublens et Cossonay en direction d'Yverdon. Un accident s'est produit sur ce tronçon. Le trafic à destination de Vevey n'est pas affecté. Et puis d'autres perturbations suisses romandes sur le contournement de Genève à l'approche du tunnel de Vernier de la douane de Bardonnay en direction de la France. Et sur l'A9B Lausanne-Valorbe entre Les Clés et le poste de douane du Creux en direction de la France.
Quelle est la liberté de parole d'un fonctionnaire de police au sujet de l'usage de la torture? La question a été posée après les propos tenus par le conseiller national neuchâtelois Yvan Perrin sur nos ondes le 6 mai dernier. Le vice-président de l'UDC Suisse, par ailleurs policier, s'était dit prêt à entrer en matière sur l'usage de la torture lorsqu'elle peut permettre de sauver des innocents. Des propos qui sont examinés actuellement par l'état-major de la police neuchâteloise et qui pourraient valoir un blâme à Yvan Perrin, Agnès Schenker.
Oui, en tout cas, c'est la crainte du conseiller national neuchâtelois qui attend les conclusions de l'examen par sa hiérarchie. Ses propos sur la torture ont fait réagir la députée verte au Grand Conseil neuchâtelois Doris Angst. Elle a posé une question au Conseil d'État lors de la dernière session, une question passée un peu inaperçue puisqu'elle a été traitée le même jour que le rapport sur l'affaire Hénard. Elle demandait au Conseil d'État, je cite, « si un employé de l'État peut publiquement prendre la défense de l'utilisation de la torture » en référence à ses propos tenus par Yvan Perrin dans Forum dans un débat mené par Philippe Reva.
Évidemment, comme acteur politique, on doit s'élever. Mais je pratique aussi comme policier. Et j'imagine la situation que tout le monde peut aisément se représenter. Votre enfant est enlevé par un pédophile. Le pédophile est arrêté par la police. On l'interroge. Il fait savoir qu'il ne souhaite pas nous parler. Et ensuite, le policier qui intervient va vers le papa, vers la maman de l'enfant et lui dit « Écoutez, on a arrêté l'auteur du rapt de votre enfant, mais il refuse de nous parler. » Qu'est-ce que vous attendez du policier à ce moment-là, qui continue à boire le café tranquillement en essayant de convaincre pendant que votre enfant est en train de mourir? Ou est-ce que vous attendez du policier qu'il obtienne l'élément qui permettra de sauver votre gosse? Bonne question.
Mais qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous utilisez le bottin de téléphone, Yvan Perrin? C'est pas très rassurant non plus. Si on commence à donner de tels moyens à la police?
Je ne crois pas que la police les sollicite. C'est juste un cas de figure qui peut se poser. Je n'y ai jamais été confronté. J'espère que ça n'arrivera jamais. Je n'ai pas l'âme d'un tortionnaire. Mais encore une fois, entre deux injustices, je préfère celle qui frappe le criminel plutôt que sa victime.
Et donc ces propos ont été compris comme une apologie de la torture?
Alors, ce qui a surtout heurté Doris Angst, c'est le fait qu'Yvan Perrin s'exprime en tant que policier et non en tant que politicien. Elle admet qu'un policier puisse exercer un mandat politique, mais elle estime qu'il n'a pas à défendre la torture en se référant à sa profession. Le président du Conseil d'État neuchâtelois, le socialiste Jean Studer, a répondu devant le Grand Conseil qu'il étudiait avec l'état-major de la police quelle suite à donner à ses propos.
Et que risque Yvan Perrin ?
Jean Studer ne peut pas le dire à ce stade. Il prévoit un entretien avec l'état-major de la police la semaine prochaine pour apprécier si ses propos sont compatibles avec les obligations faites aux policiers neuchâtelois. Yvan Perrin, lui, s'attend à recevoir un blâme. Il renonce à s'exprimer avant de savoir ce qu'on lui reproche, mais il ne renie pas ses propos qui ne constituaient pas, selon lui, un appel à utiliser la torture. Dans son esprit, il s'agissait de constater que les policiers sont parfois confrontés à des cas extrêmes où ils aimeraient pouvoir y recourir et de demander qui va le dire si les policiers ne peuvent pas le faire eux-mêmes.
Agnès Schenker, en direct de Berne, merci. Et à Genève, l'association Citoyens pour la justice publique a manifesté devant le palais de justice. Elle en appelle, je cite, à la libération immédiate de Mohamed Galganam, un dissident anticorruption égyptien. L'homme a été condamné en mars 2007 à 18 mois de prison pour voies de fait et menaces. Il est emprisonné à Chandelon depuis 2008. L'association s'indigne aujourd'hui de son maintien en prison alors que l'homme semble atteint dans sa santé mentale. Denise Grave, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du travail sur les droits humains à Amnesty International, section Suisse. Vous avez suivi ce dossier. Hein. De quoi s'agit-il en fait? On est dans une forme d'impasse. L'homme ne parle plus à personne. Il s'est renfermé sur lui-même.
Nous avons effectivement essayé de le contacter à plusieurs reprises. Nous avons demandé à d'autres organisations comme la Ligue genoise des droits de l'homme, aussi à la Croix-Rouge, d'intervenir, de le contacter, mais malheureusement, il n'a jamais répondu à toutes ces tentatives de contact. Il n'a pas non plus répondu à nos lettres. Et c'est vrai que tous les éléments que nous avons rassemblés nous font penser qu'il s'agisse d'une personne avec des troubles psychiques d'une certaine importance.
Est-ce qu'on peut dire que l'on est potentiellement dans une situation de type de celle de Skanderbeg? Est-ce qu'on peut faire cette comparaison, ce parallèle, c'est-à-dire un détenu qu'on maintient en prison parce qu'on considère que son état psychologique est mauvais?
Je compare cette situation à celle de Skanderbeg dans la mesure où il y a eu une première condamnation et puis après il y a eu un internement pour des raisons de sécurité. C'est vrai que les raisons étaient un peu différentes. Il aurait conféré des menaces contre des politiciens, contre la Suisse, mais n'empêche que un rapport psychologique semble vraiment conclure à des troubles très graves de sa personnalité. Et de ce fait, Chandelon n'est pas un cadre adéquat pour détenir une personne comme ça.
Ce que vous voulez dire, c'est que sa place n'est pas en prison.
Non, il faudrait une institution comme celle qui va être créée en 2013. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes jusqu'en 2013? Est-ce qu'il faudrait d'autres situations comme celle de Skanderbeg? Ce n'est pas une solution d'interner ces personnes dans une prison de haute sécurité.
Alors, il y a un angle aussi politique à cette affaire. Hein. Il y a évidemment son état psychologique, mais il apparaît également qu'à un moment donné, le Conseil fédéral, suite à des interpellations parlementaires, a considéré qu'il constituait une éventuelle menace pour la sécurité de la Suisse. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il est maintenu en prison aujourd'hui. Vous adhérez à cette thèse?
Je ne peux pas me prononcer par rapport à ce volet-là parce que nous n'avons jamais pu avoir accès au dossier. Nous avons demandé l'autorisation à Monsieur Galganam, qui nous a jamais répondu. Et de ce fait, faute de dossier, je ne peux pas me prononcer.
Mais vous-même, vous le connaissiez comme un militant anticorruption ou pas du tout?
C'est quelqu'un qui a eu une poste important dans l'administration égyptienne. Il aurait été l'auteur de la loi anti-terreur. Il aurait aussi était professeur à l'université. C'est une personnalité qui avait de l'influence. Mais à un moment donné, il a eu un conflit avec les autorités égyptiennes et il était obligé de quitter le pays.
Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, aujourd'hui, Amnesty International, pour ce cas-là, pour l'aider, si quelque chose vous pouvez faire?
Nous avons aussi informé la Commission nationale contre la torture de cette situation-là, en espérant qu'elle se penche sur la situation des internements et peut-être aussi de ce cas-là et qu'elle tente de lui rendre visite.
Denise Graff, responsable du travail sur les droits humains à Amnesty International, section Suisse. Merci et bonne soirée.
Merci.
Infotrafic RSR.
L'important bouchon observé sur le contournement de Lausanne prend de l'ampleur. Il s'étend maintenant de Morges à Cossonay en direction d'Yverdon. Un accident est à l'origine de la perturbation. Le trafic à destination de Vevey n'est toujours pas affecté. Cet événement se reporte également sur la partie nord du contournement. Le trafic est à l'arrêt entre La Blécherette et Villars-Sainte-Croix en direction d'Yverdon. L'embranchement direction Genève est dégagé par contre. En football, c'est le printemps des romands. On rivalise de qualificatifs pour déterminer ce qui est en train de se passer pour le foot romand. Servette, le Servette FC qui rejoint Sion, Xamax et Lausanne en Super League. 4 clubs romands sur 10. Le championnat parlera français la saison prochaine en Suisse. 4 clubs romands, c'est beaucoup par rapport à la démographie. 2 invités avec nous pour en parler. Jacques Ducret, journaliste, bonsoir.
Bonsoir.
Et Alain Kunz du Blick, journaliste également. Bonsoir à vous, Alain Kunz.
Bonsoir.
C'est un peu déséquilibré, Alain Kunz. 4 clubs romands sur 10. En Suisse, les romands pèsent moins, normalement.
Ouais, démographiquement, c'est un peu équilibré, c'est un peu déséquilibré, mais le foot, c'est comme si toutes les équipes sont qualifiées sportivement, alors ils ont le droit d'être en Super League. Et je trouve très bien qu'une équipe qui est presque mythique comme Servette retrouve la Super League.
Alain Kunz, est-ce qu'on peut imaginer qu'en Suisse alémanique, on voit quand même d'un mauvais œil, on se dit ben, Saint-Gall n'est plus représenté, il y a des parties entières du pays qui le sont moins, et puis tout se concentre à l'ouest?
Oui, bien sûr, que Saint-Gall n'est plus en Super League, ça c'est un peu malheureux, parce que c'est une équipe qui attire beaucoup de spectateurs. Mais bien, c'est comme ça, hein. On a beaucoup de romands, il y a beaucoup de trajets à faire maintenant, tout à coup aussi pour les Suisses-Allemands qui étaient un peu entre eux. Mais je pense qu'on cherche toujours cette ligue parfaite. Cette ligue parfaite, on l'a eu une fois, mais c'est qui dans la ligue parfaite? Tout la Super League est en train un peu de changer. Il y a des nouveaux stades, par exemple à Thun, ça fait un moment un nouveau stade à Xamax, à Neuchâtel, un nouveau stade à Lucerne. Alors je pense que la ligue parfaite, on n'aura jamais.
Jacques Ducret, c'est votre avis aussi?
Moi, je trouve personnellement qu'une ligue à 10, c'est une hérésie, qu'il faudrait en revenir à un championnat à 12 ou 14 équipes. Est-ce qu'on veut à mon avis c'est le point principal. Et puis maintenant, vous savez, l'histoire c'est comme ça, il y a exactement 20 ans en arrière, vous aviez tout d'un coup 3 clubs romands parmi les 4 premiers. J'entends actuellement on a quatre équipes de Suisse française en Super League. Mais ça correspond aussi à un rapport de force. Et puis, sur le plan financier, on voit bien que les difficultés sont partout les mêmes. Si on voit celles que connaissent les deux grands clubs des bords de la Limmat, Zurich et Grasse-Pierre.
Mais Jacques Ducret, est-ce que c'est pas trop petit la Suisse romande pour 4 clubs en Super League aujourd'hui?
Trop petit la Suisse romande. Moi, ça me fait sourire parce que si vous connaissez un peu l'histoire du football suisse, on a toujours constaté par le passé que la Suisse romande faisait largement jeu égal avec la Suisse allemande. C'est pas une question de dimension.
Mais à l'époque, il y avait peut-être plus de clubs en Super League ou en Liga, comme on l'appelait à l'époque. Je voulais dire au niveau économique, avec la masse financière qu'il faut, parfois, vous pensez que c'est bon, on a la place?
Écoutez, là, point de vue de la masse économique, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Grasse-Pierre et le FC Zurich traversent une crise très grave sur le plan financier. Il faut bien se rendre compte que tous les clubs suisses de l'élite souffrent, à l'exception du FC Bâle, qui, disons, bénéficie d'un soutien énorme, tant par son public, par l'industrie privée, mais tous les autres, dès l'instant où on n'a pas l'apport, voyez, d'une chaîne comme en France, comme Canal+, les chaînes privées, les clubs suisses sont en difficulté constante.
Alain Kunz, vous, est-ce que vous faites le lien entre centre économique, un club devrait s'appuyer sur un centre économique, moins peut-être les autres régions, qu'est-ce que vous en pensez?
Pardon?
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette théorie qui veut qu'il faille un club pour un grand centre économique? Alors, Lausanne-Genève, pourquoi pas? Parfois, c'est plus difficile dans les régions plus excentrées. On a pu parler à l'époque de Thun, par exemple, qui n'est pas vraiment excentré, vous allez me dire, mais c'est moins le gros centre que peut l'être Berne.
Non, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile dans les petites régions. On voit ça en hockey sur glace, par exemple, où Henri Piotta, qui est une des dernières équipes, comme il y en avait beaucoup dans le temps, où il n'y avait pas les mêmes sommes qu'ils étaient dans le jeu avec des comme Arosa ou bien Morges ou bien je ne sais pas qui, ils sont en train de se battre pour survivre. Et puis en foot, ils ont plus ou moins disparu. Il ne faut pas oublier que le Berner Oberland c'est quand même une région avec certains bassins. C'est pas tout petit. Mmh.
Vous nous disiez tout à l'heure, Alain Kunz, pour la Suisse romande, Xamax, vous étiez plutôt sceptique envers Xamax. Hein. Vous disiez Lausanne, Genève, l'Arc Lémanique, Xamax, l'avenir plus difficile.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est assez typique que Xamax a eu un mécène avec Silvio Bernasconi qui a mis beaucoup d'argent. Avant, c'était Facchinetti. Et puis maintenant, il veut vendre. Et qu'est-ce qu'on trouve? Personne. Personne qui veut reprendre ce club, sauf un Tchétchène. Et puis maintenant, bon, c'est la réalité. Une fois de plus, il y a un étranger qui prend un club suisse. Et puis tous les étrangers qui ont pris des clubs suisses jusqu'à présent, c'était un débâcle. Alors j'espère pas pour Xamax que ça sera la même chose, mais les premiers signes sont très très mauvais.
Jacques Ducret, c'est votre avis aussi?
Écoutez, d'une certaine façon, oui, c'est vrai qu'on n'en trouve pas de repreneur. Mais je pense, moi, qu'il faut être un peu plus de modestie, c'est-à-dire que ça, l'impulsion d'avenir du sommet, donc du comité de la Ligue nationale, de croire qu'on peut rivaliser avec les autres pays en réduisant donc le championnat à 10, il faut maintenant se rendre compte qu'il faut plutôt régionaliser, puisqu'on n'a pas une véritable élite. Puisque de toute façon, dès que vous avez un beau joueur, il part à l'étranger. Les étrangers qui viennent ici, c'est des joueurs de seconde et troisième zone, il faut un peu d'humilité, puis se rendre compte justement de nos limites.
Ouais, c'est pas forcément très enthousiasmant, Jacques Ducret, pour le public. On doit admettre en fait nos faiblesses.
Mais le public, il n'est pas dupe. Vous voyez, quand on regarde simplement à Genève, on a donc Servette qui vient de monter. J'aimerais simplement faire la comparaison avec le budget de club voisin, donc de Thonon et Vian, qui vient également de monter en première division française. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que Evian Thonon, plus de la moitié de leur budget est assuré par les rentrées de la TV. Et regardez, il y a quoi en Suisse? Rien.
Oui, on est très loin de ces sommes-là. Alain Kuntz, on discutait tout à l'heure en rédaction, puis on se disait, tiens, maintenant qu'il y aura 4 clubs romands sur 10 en Super League, vous verrez, certains disaient, je ne vais pas les citer, à Zurich, les patrons de la Ligue vont changer les règles, du coup, ils vont augmenter le nombre d'équipes parce qu'ils vont trouver qu'il n'y a plus assez d'Alémaniques. C'est un peu paranoïaque ou est-ce qu'on peut aller vers un scénario comme ça?
Bon, faut pas, mais je pense que vous ne pourrez peut-être pas oublier que le directeur de la Ligue nationale... c'est un roman, hein. Ils disent, non, c'est pas ça, mais je pense qu'il faut prendre conscience qu'on ne faut pas resserrer l'élite, puisqu'on n'en a pas d'élite. Il faut miser sur la quête de la régionalisation, permettre à un club, par exemple, de jurassien, de pouvoir évoluer au plus haut niveau.
C'est
ça, à mon avis, la solution, elle est là. Il faut avoir un peu d'humilité et se rendre compte que de vouloir singer les autres, ça va pas.
Alain Kuntz, vous faites la même réponse à la même question?
Non, je crois pas, je suis pas d'accord. Je crois qu'on peut pas protéger les minorités parce que c'est des minorités, parce que c'est des régions qui sont un peu périphériques. S'ils n'ont pas le potentiel économique pour jouer dans l'élite, alors c'est pas possible, tout simplement. Oui. Ou bien on l'a, ou bien on l'a pas. S'il y a un certain potentiel, c'est nécessaire.
Le potentiel économique, moi je sais pas, mais je viens d'apprendre que le FC Zurich a de graves problèmes financiers. Alors si eux, leur potentiel économique ne va pas, il faut chercher autre chose.
Effectivement, si Zurich n'y arrive pas. Je vous remercie beaucoup Jacques Ducret d'être venu quelques instants avec nous pour parler de l'avenir du foot suisse. Maintenant que les romans sont presque en majorité, 4 sur 10, Alain Kuntz du Blick était avec nous. Merci beaucoup messieurs,
merci.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et on se rend tout de suite à Roland-Garros où l'on vous retrouve. Laurence Bolomet se jouait aujourd'hui les deux derniers quarts de finale masculine et Rafael Nadal vient de l'emporter sur le Suédois Robin Söderlin.
En 3-7 sur le score de 6-4, 6-1, 7-6. Alors la bonne nouvelle pour l'Espagnol, c'est qu'il a totalement retrouvé son niveau de jeu. Il a joué à sens unique sur les deux premiers sets. Et puis cette troisième manche a été magnifique parce que Robin Söderling a réussi à élever son niveau de jeu, à retrouver son jeu d'attaque, un bon service et puis des coups droits très plats, très profonds, très puissants. Et donc ça a donné un magnifique spectacle pour le public ici en masse à Roland-Garros. Mais une victoire en effet et donc une demi-finale pour Rafael Nadal. Nadal qui s'est sûrement fait plaisir aujourd'hui par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées par le passé.
Laurence Bolomet, vous étiez en direct de Roland-Garros à Paris. Merci. L'opposition syrienne est réunie à Antalya, en Turquie, pour soutenir la contestation en Syrie. Elle réclame le départ du président Bachar al-Assad. L'opposition maintient son cap en dépit de l'amnistie générale déclarée la veille par le président. Plus de 300 opposants débattront pendant 3 jours afin de constituer une feuille de route pour une transition démocratique et pacifique en Syrie. Agnès Levallois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et journaliste spécialiste de la Syrie. Hier, le président Bachar el-Assad annonçait l'amnistie de tous les prisonniers politiques et aussi des frères musulmans arrêtés jusqu'à présent pratiquement. Qu'est-ce qu'on peut y voir? C'est un simple effet d'annonce ou est-ce que vraiment il y a quelque chose là derrière, une forme d'évolution?
Alors, nous nous posons des questions sur la réalité de cette annonce, à savoir si cette mesure va vraiment concerner l'ensemble des prisonniers politiques, puisqu'en général, lorsque le président Assad, depuis le début des événements, fait des annonces, elles sont régulièrement démenties par les faits tout de suite après. Donc, je crois qu'il convient d'être extrêmement prudent et vigilant sur le contenu véritablement de cette annonce. Si cela permet à un certain nombre de prisonniers politiques d'être libérés, bien évidemment, il faut saluer cette mesure. Mais je crois qu'il faut quand même rester très prudent sur véritablement, si vous voulez, les personnes qui seront concernées par cette annonce, même si effectivement le pouvoir a pas mal insisté sur le fait que les frères musulmans étaient également concernés par cette mesure, ce qui est en soi-même une révolution lorsque l'on connaît, si vous voulez, la lutte acharnée que le régime a menée contre les frères musulmans. Donc ça, c'est sûrement un point. Mais pour de nombreux Syriens aujourd'hui, le sentiment qui prévaut, c'est de se dire que le gouvernement essaye de gagner du temps en faisant cette annonce, mais beaucoup de scepticisme sur la réalité de l'application de cette annonce.
Alors, l'opposition syrienne est réunie en Turquie pour 3 jours, tenter de se coordonner tout d'abord, hein, parce qu'il y a différents courants qui s'opposent, et puis la stratégie à suivre n'est pas tout à fait claire.
Oui, ce qui est important dans cette réunion d'Antalya, c'est que de nombreux opposants sont présents, aussi bien des Syriens de l'intérieur que des Syriens de l'extérieur, même si bien évidemment ce sont majoritairement des Syriens de l'extérieur qui ont pu venir à Antalya. Il y a aussi bien des frères musulmans que des partis de gauche, que des chrétiens. Donc on voit bien que cette opposition essaye effectivement de trouver une feuille de route à pouvoir proposer pour continuer la contestation, puisqu'on voit bien que dans l'annonce qui est faite par le gouvernement syrien d'amnistie, il y a cette volonté d'essayer de casser le mouvement, ou en tous les cas de porter un coup d'arrêt à ce mouvement, puisqu'on peut très bien imaginer qu'un certain nombre de Syriens qui hésitent aujourd'hui à descendre dans la rue en raison de la violence, de la répression, peuvent se satisfaire de cette annonce en se disant « bon, le régime est en train de faire des pas, donc arrêtons de manifester et essayons de croire à ce que nous dit le régime ». Donc l'opposition qui est réunie aujourd'hui à Antalya est très prudente et essaye quand même de maintenir cette pression sur le régime, et que la majorité des manifestants qui n'est pas encore descendu dans la rue, de l'inciter, si vous voulez, à quand même rejoindre le mouvement et non pas se satisfaire de cette annonce.
Oui, mais concrètement, quelles sont les revendications de toutes ces différents courants d'opposition ?
Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la revendication de l'ensemble de l'opposition, c'est le départ de Bachar el-Assad. Celui-ci n'ayant pas compris dès le départ qu'il fallait vraiment entamer de vraies réformes, alors qu'au début, sa personne n'était pas contestée par la majorité des Syriens, aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que la répression a été tellement loin, a été tellement violente, qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint. Et à partir de là, la revendication des manifestants aujourd'hui, c'est le départ de ce régime, c'est un véritable changement de régime, en raison, j'insiste, de la répression, de la violence de la répression qu'a exercé ce pouvoir.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette réunion qui se déroule en Turquie, donc à l'extérieur du pays, aura quand même un impact à l'intérieur ?
Alors bien sûr, toute la question est là. En même temps, le fait que ça se passe en Turquie, c'est quand même un signal aussi qui est adressé par le gouvernement turc à la Syrie, même si évidemment ce n'est pas une manifestation organisée par les Turcs. Le gouvernement turc, bien évidemment, quand même soutient d'une façon ou d'une autre cette manifestation. Et on sait qu'aujourd'hui, ce sont les Turcs qui sont très en pointe, j'allais dire, dans les négociations avec le gouvernement de Bachar el-Assad pour tenter de lui faire entendre raison sur la nécessité des réformes et sur l'arrêt surtout de la répression. Donc vous savez, dans cette situation, il y a toujours la difficulté d'organiser les rencontres ou d'organiser la riposte à adopter entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, on voit bien dans cette manifestation, de ce regroupement d'Antalya, même si certains Syriens ont fait le déplacement de l'intérieur, tout ce qui sera décidé ne pourra être valable que si c'est complètement repris par les Syriens qui sont aujourd'hui en première ligne dans la contestation, donc les Syriens qui sont sur place.
Et vous le disiez, la Turquie joue un rôle dans cette contestation. Elle va toutefois pas jusqu'à demander le départ du président, donc elle joue quand même une sorte de double jeu.
Non, je ne parlerai pas de double jeu, je parlerai simplement d'une volonté de la Syrie que la situation ne se dégrade pas trop en Syrie parce que c'est son voisin, que la Turquie a beaucoup investi dans la normalisation des relations avec Damas depuis quelques années, que n'oublions pas, il y a la question kurde qui est une question extrêmement sensible pour les Syriens mais également pour les Turcs, et que donc la Turquie n'a pas du tout envie de voir une situation dégénérer. C'est la raison pour laquelle il y a eu un certain nombre d'émissaires turcs qui ont été envoyés à Damas pour inciter le président syrien à faire des gestes pour calmer la contestation. Aujourd'hui, devant, j'allais dire, l'absence de réaction à ces demandes du gouvernement syrien, c'est vrai que l'attitude du gouvernement turc est montée d'un cran, et donc en autorisant la réunion de cette opposition à Antalya. Mais on voit bien que pour la Turquie, l'inquiétude majeure, c'est que la situation redevienne à la normale en Syrie, avec une évolution, bien évidemment, du régime, puisque les Turcs sont tout à fait conscients que la situation actuelle ne peut pas durer et que surtout un point de non-retour a été atteint par le régime.
Agnès Levallois, merci d'avoir été avec nous quelques instants sur cette question syrienne. Bonne soirée.
Bonsoir.
Forum, Tatiana Odo, Philippe Reva.
La Suisse au-delà du paysage, c'est un ouvrage aux éditions Découverte Gallimard, un livre pour faire découvrir la Suisse aux Français, aux francophones, aux Suisses aussi d'ailleurs, pourquoi pas, au-delà des clichés pourrait-on dire. Son auteur est avec nous, François Walter, bonsoir.
Bonsoir.
C'est historien, professeur à l'Université de Genève. Avec nous également Jean-Michel Olivier, écrivain et blogueur accessoirement. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous avez lu ce bouquin, vous en avez un avis assez complet d'ailleurs. François Walter, tout d'abord, ce livre, on peut dire que c'était pour aller au-delà du cliché, c'est un peu le motus de l'ouvrage.
Oui, c'est un livre dont l'objectif est de faire comprendre aux Suisses surtout un certain nombre de choses qu'on considère habituellement comme des évidences, que la Suisse est un pays de la liberté, de la démocratie, de la neutralité. Et tout ça, il faut le rattacher, je crois, ces évidences à un contexte historique pour montrer que ça a été construit. Et ce sont ces éléments qui font que la Suisse est ce pays surprenant. Et donc le but du livre, c'est de raconter cette invention de la Suisse avec tous ces éléments qui, contrairement à ce qu'on peut croire, ne sont pas forcément inscrits dans la nature ni dans le roc, même la montagne. Hein, la montagne a été construite par les Suisses.
Ouais, le paysage a été inventé, on a construit le paysage, transformé en paysage le pays, c'est ça?
Oui, assurément, les montagnes, évidemment, elles sont là, hein, comprenons-nous bien. Mais les Suisses ont su valoriser cette montagne et la vendre hein, sur le marché, sur le marché symbolique, sur le marché touristique, le marché littéraire, comme un paysage.
Et puis vous faites pièce à quelques mythes. On a l'impression que ça faisait longtemps qu'on les avait oubliés, peut-être nous Suisses, Guillaume Tell, les Waldstätten, fiers des débuts, tout ça. Vous revenez un peu là-dessus pour, une fois de plus, disons, les remettre à leur place, c'est-à-dire celle de mythes.
Pas vraiment, non. Je pense qu'il s'agit d'abord d'accrocher le lecteur par des choses qu'il connaît. Hein, le lecteur n'aime pas être déstabilisé. Hein, il aime qu'on lui raconte ce qu'il sait déjà, parce que c'est valorisant hein, d'avoir l'impression qu'on connaît déjà. Alors il faut partir des images que tout le monde connaît, et puis après montrer dans quel contexte on a effectivement construit ces images, comment on les a utilisées dans des contextes historiques changeants, leur donner des valeurs également changeantes selon les besoins, selon les périodes historiques. C'est un peu ça le fil conducteur. Et donc, le paysage sert de fil rouge parce que j'essaye de raconter quand même hein, quelque chose. J'essaye de raconter comment ces images construisent la Suisse, construisent le lien social, puisque c'est ça l'objet de l'histoire, c'est le lien social.
Et vous avez eu un de vos premiers lecteurs, c'est Jean-Michel Olivier, bon, qui n'a pas été complètement convaincu. Jean-Michel Olivier, vous dites « occasion manquée par certains aspects ». Qu'est-ce que vous reprochez à cet ouvrage?
Écoutez, pour aller vite, au fond, deux choses. D'abord, c'est vrai que j'ai l'impression que ça part d'un cliché, mais que le livre a de la peine à dépasser les clichés, qu'on remplace un cliché par un autre. Ça, c'est la première critique. Et la deuxième critique, mettons, c'est sur l'absence, au fond, de la Suisse que j'aime, c'est-à-dire la Suisse inventive, la Suisse culturelle aussi, qui est vraiment extrêmement peu abordée dans le livre. Alors pour la première critique, au fond, bon, on a eu très longtemps l'évangile selon Saint Chevalat. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Au fond, c'était une vision de la Suisse très particulière et un peu borné, je dirais, qui cachait les zones d'ombre. Et puis là maintenant, alors bon, c'est le contre-coup. On a l'impression que, au fond, on met surtout l'éclairage sur ces zones d'ombre qu'on développe et qui au fond servent justement de nouvelles cartes de visite un tout petit peu de la Suisse.
François Walter.
Juste un exemple, peut-être à la page, juste à la page 63, il y a une illustration qui est à mon avis assez caractéristique au fond. On voit deux soldats, en 1939 j'imagine, un soldat allemand, un soldat suisse, qui sympathisent au fond, où on voit le drapeau suisse et le drapeau la croix gammée. C'est au fond une nouvelle, un peu une nouvelle vision comme ça de l'histoire qui me paraît extrêmement limitée.
Alors François Walter, qu'est-ce que vous répondez ?
Je répondrai d'abord que la littérature et la culture n'a pas le monopole de la Suisse inventive. Hein. La Suisse inventive, c'est avant tout la Suisse des femmes et des hommes qui ont construit ce pays, notamment en travaillant, et l'apport économique, l'inscription, le succès économique de la Suisse, le modèle suisse à travers ses institutions, c'est ça la véritable Suisse inventive. Puis après, il faut savoir ce qu'on entend par culture. Pour moi, la culture, c'est pas la liste des auteurs grands et petits, hein. c'est pas ce catalogue des célébrités, mais c'est vraiment de comprendre pourquoi, comment on représente et comment on se représente le monde extérieur, c'est en l'occurrence la Suisse. Et alors dire ensuite qu'on a remplacé une vulgate par une autre, je trouve que c'est un petit peu aller vite en besogne. Moi, au contraire, je suis impressionné par l'ensemble hein, de cette déconstruction de l'histoire suisse depuis des années. Et en même temps, je suis consterné comme citoyen suisse. Alors, on a une mission, l'historien a une mission. Il ne faut pas laisser les mythes et les clichés uniquement à ceux qui les instrumentalisent, c'est-à-dire à une certaine opinion politique plutôt de droite. Il faut parler de ces sujets, de ces valeurs suisses, de cette construction de l'identité helvétique. Et il faut aussi admettre les zones d'ombre. Et donc, dans un livre d'histoire, c'est un livre d'histoire, c'est pas un livre sur la culture suisse, dans cette prestigieuse collection Gallimard, il y a des séries culture et des séries littérature, ça c'est une série histoire. Alors, il faut dire aussi à nos lecteurs hein, ce qu'a été la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale et répondre aussi aux interrogations du présent sur ce qu'est la Suisse comme place financière extrêmement puissante dans le monde et avoir le courage d'assumer ces nouvelles images qui sont des images parfois malheureusement un peu négatives sur notre pays.
Jean-Michel Olivier, vous n'avez pas aimé c'est un beau panorama parce qu'on voit on parle aussi de cette Suisse très urbaine hein. Là aussi on démonte une sorte de cliché qui avait cours il y a quelques temps c'est vraiment la Suisse telle qu'elle est non Jean-Michel Olivier, aujourd'hui on peut s'y retrouver?
Non mais absolument tout n'est pas à jeter comme je dis aussi dans mon papier. En l'occurrence, je trouve qu'il y a une vraie analyse du paysage, l'importance du paysage et de la construction du paysage qui est tout à fait juste. Mais pour revenir justement, par exemple, à cette photo, c'est une photo qui laisse entendre qu'il y a au fond une collaboration entre la Suisse et l'Allemagne nazie, ce qui quand même.
Mais le tampon J, Jean-Michel Olivier, ça a existé, on est obligé d'en parler.
Mais bien sûr qu'il faut en parler. Mais j'ai l'impression que ça correspond aussi beaucoup à une certaine image, à un certain cliché que les étrangers, les Français en particulier, sont de la Suisse.
François Walter.
Mais bien sûr, il faut répondre aussi aux attentes des lecteurs, quels qu'ils soient. Alors, il y a les lecteurs étrangers, mais il y a aussi les lecteurs suisses. Je pense que le lecteur suisse, parce que c'est pour lui que j'ai écrit, devrait aussi découvrir dans ce livre un certain nombre de choses que, et je m'en rends compte de plus en plus, parce que je parle assez souvent maintenant, soit avec des lecteurs, soit avec des journalistes, que malheureusement, cette culture historique, elle est absente aujourd'hui des médias, elle est absente et on a une sorte de les Suisses sont en quelque sorte orphelins de leur passé parce qu'ils ne connaissent plus rien de la culture suisse. Et la culture suisse, c'est pas seulement la culture littéraire, c'est la culture politique avant tout. C'est là qu'il faut dire des choses et expliquer aux gens comment fonctionne ce pays.
François Walter, c'est la Suisse au-delà du paysage, c'est aux éditions Découverte. Effectivement, vous le disiez, prestigieuses éditions Découverte Gallimard, la Suisse au-delà du paysage, vous en êtes l'auteur, vous êtes historien, François Walter. Jean-Michel Olivier, on vous remercie en tant qu'un des premiers lecteurs d'être venu donner votre son de cloche sur cet ouvrage. Également, vous êtes écrivain, Jean-Michel Olivier. Je vous remercie beaucoup.
Merci,
bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Et tout de suite, c'est la météo avec Stéphanie Coller.
La nuit sera calme et devrait être sèche. Demain matin, le soleil sera présent, mais pas seul, dans le ciel. On verra aussi des résidus nuageux. Dans les Alpes et les Préalpes, ces résidus pourront localement occasionner une averse dans le courant de l'après-midi. Le temps sera assez ensoleillé en plaine, un peu moins dans les Alpes. La bise soufflera toujours sur le plateau, elle pourra encore être forte. En montagne, un vent du nord-est sera modéré. Les minima seront encore fraîches, vers 9-10 degrés en plaine. L'après-midi, les maxima seront nettement plus douces. Sur le plateau, elles se situeront entre 16 et 20 degrés selon l'ensoleillement. En Valais, il fera jusqu'à 22 degrés. L'isotherme du 0 degré sera près de 3500 mètres. Vendredi, malgré des passages nuageux, le temps sera assez ensoleillé. Le mercure remontera jusque vers 24 degrés en plaine et 26 degrés en Valais.
La météo avec Café Kikodoro et son système à capsules. Infotrafic RSR.
Un important bouchon causé par un accident est toujours observé sur l'axe Genève-Yverdon de Morges à Cossonay en direction d'Yverdon. Le trafic à destination de Vevey n'est pas affecté. Cet accident bloque partiellement la partie nord du contournement à l'approche de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction d'Yverdon. L'embranchement direction Genève est épargné. D'autres perturbations à signaler sur le contournement de Genève à l'approche du tunnel de Vernier de la douane de Bardonnay en direction de la France et sur l'A9B Lausanne-Valorbe entre Les Clés et le poste de douane du Creux en direction de la France. Enfin, sur l'autoroute Lucerne-Chiasso, la colonne au portail nord du Gothard s'est réduite à 2 km. C'est la fin de cette édition de Forum. On vous remercie de l'avoir suivi. On citera à la technique Jean-Bernard Pfulg et Frédéric Zahn qui étaient aux manettes derrière la vitre de notre studio à la Sala. À noter à l'édition Laurent Keller. Et puis vous souhaitez à toutes et à tous une excellente soirée puisqu'il est dans quelques secondes 19h sur la première.